Alors que le dossier du Rwanda s'est alourdi ces derniers temps suite à ses liens avec les terroristes du M23 présents dans l'est de la RDC, la communauté internationale vaque à ses occupations comme si de rien n'était. Seule candidate à sa propre succession, la Rwandaise Louise Mushikiwabo va visiblement conserver son poste de secrétaire générale de la francophonie en novembre prochain, sans que personne ne dise quoi que ce soit. L'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères et actuelle secrétaire générale de l'OIF, donc Louise Mushikiwabo, est souriante depuis quelques jours et pour cause, candidate à sa propre succession, la Rwandaise devrait rempiler pour un nouveau mandat à la tête de l'OIF. Le 23 août dernier, au moment de la clôture des candidatures, Louise Mushikiwabo a su qu'elle serait certainement élue, seule candidate en lice. Elle sera auditionnée lors d'une session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie le 6 octobre prochain, avant d'être logiquement élue le 20 novembre lors du sommet de Djerba en Tunisie. 4 ans après son arrivée à la tête de l'OIF, cette réélection représente un cadeau diplomatique fait par la France de nouveau au Rwanda. Le pays de Paul Kagame cherchait ces dernières années par tous les moyens à accroître son influence en Afrique, mais également dans le monde, en traitant directement avec les anciennes puissances coloniales. Lors de sa victoire en 2018, Mushikiwabo avait fait l'objet d'un lobbying intense de la part de Kigali. La victoire contre la Calindienne Michaëlle Jean n'avait été qu'une formalité. Et les soucis de 2018 devraient laisser place à des retombées moins négatives pour la Rwandaise du fait qu'elle soit candidate unique. Car à l'époque, l'élection d'une personnalité rwandaise à la tête de l'OIF n'avait pas vraiment été bien vue au sein de la communauté internationale francophone. Car Louise Mushikiwabo, avant de porter l'OIF, fut ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame de 2009 à 2018, 9 années pendant lesquelles elle a porté le discours rwandais à l'international. Or, en portant depuis des années la politique extérieure rwandaise, elle est totalement identifiée à un régime défiant nombre des principes fondateurs de la francophonie, comme résumait déjà Le Monde en 2018. Traque et arrestation d'opposants, voire exécution, le régime de Kagame est en effet bien éloigné de l'image qu'il renvoie. D'ailleurs, pour faire élire Louise Mushikiwabo sous pression de ses partenaires, dont la France, Kigali avait libéré simplement 2000 prisonniers politiques en septembre 2018. Pourtant, cela ne semble déranger personne au sein des organisations internationales. Autre grief fait au Rwanda, ce pays ne s'illustre plus vraiment dans la défense de la langue française. Et pour cause, l'anglais est devenu en 2003 l'une des 3 langues officielles du Rwanda. Surtout la langue de Shakespeare a remplacé le français en 2010 dans son rôle de langue de scolarisation. En 2018, Mushikiwabo avait bénéficié d'un soutien presque inconditionnel de la part de Paris, qui tentait donc de renouer avec Paul Kagame après 3 années de rupture entre la France et le Rwanda. Aujourd'hui, la situation rwandaise n'est pas forcément meilleure en termes de démocratie qu'à l'époque, mais entre Paris et Kigali, leurs relations se sont largement réchauffées. Même après les nombreuses accusations avec preuve à l'appui de Kinshasa de l'implication directe du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Malgré les beaux discours, il est clair que Kigali a négocié certaines choses en échange de l'attention de la communauté occidentale. Visiblement, le deux poids deux mesures des Occidentaux est toujours dans son paroxysme, tout comme l'Arabie Saoudite. Le Rwanda n'est visiblement pas touché par l'histoire des droits de l'homme. Reste que la situation qui se présente est assez cocasse au moment où le Rwanda prend la présidence tournante du Commonwealth. Pour les 2 prochaines années, l'OIF est également dirigé par une Rwandaise. En accueillant le sommet du Commonwealth pendant qu'une Rwandaise dirige l'OIF, Paul Kagame fait bouger les lignes de la géopolitique en Afrique, comme l'affirment certaines sources. Le président rwandais et les ex-puissances coloniales que sont la France et le Royaume-Uni ont visiblement beaucoup de points en commun pour pouvoir naviguer ensemble, alors que la population africaine s'unit pour chasser les colons de leur continent. Entre le Mali et la France, le clash à l'ONU. En effet, Paris, n'étant pas capable d'affronter ce dossier d'accusation qui s'avère être en béton armé, s'emploie toutefois à éviter de rallonger la chaîne des précédents fâcheux pour sa diplomatie internationale. Pour le moment, le flou persiste dans cette affaire, grâce notamment au silence douteux de l'accusé. C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Une ancienne colonie de la France l'interpelle face au monde entier à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies sur base d'accusations extrêmement grave. Le Mali est le pionnier dans la manifestation de plusieurs symptômes qui caractérisent le débâcle de la métropole dans ses anciens précarés. L'affaire est surréaliste selon certains médias. Donc, après plusieurs mois de tensions entre les deux pays, le clou du spectacle s'avère être cette accusation de violation de la souveraineté du Mali et de soutien direct au mouvement terroriste contre ce pays. Sans s'attarder sur le dossier d'accusation, nous laissons le soin donc au CSNU. Donc, nous préférons analyser brièvement des faits incroyables survenus publiquement depuis que ces accusations sont rendues publiques. Au lendemain de la saisine de l'ONU, l'État français avait en tête donc son chef Emmanuel Macron, pourtant prompt à défendre son pays face à toute accusation, a brillé par son silence. L'occasion n'a pourtant pas manqué pour lancer des piques. Il annonçait récemment la fin de l'abondance pour les Français. Et cette semaine encore, il essayait de flirter donc avec Tebboune en Algérie. La réplique classique est venue d'un militaire de la force Barkhane qui, sans apporter de démenti convaincant, nous a plutôt servi la même soupe froide de l'écœurement et la victimisation. C'est une insulte où des Français donc sont tombés pour sauver le Mali, etc., etc. Pour ceux qui s'attendaient à des démentis sur la base de preuves à la hauteur de celles que le Mali a brandies, la déception fut totale. Et pour le moment, trois questions tournent sur les lèvres. Pourquoi la France fait tout pour empêcher cette réunion ? Pourquoi le Mali n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse à sa demande et pourquoi les alliés du Mali n'ont pas encore communiqué sur le dossier. Par ailleurs, dans ce silence gênant de l'Hexagone, il nous est revenu que tous ces efforts sont déployés au sein de l'ONU pour que cette réunion d'urgence demandée par le Mali n'ait jamais lieu. En effet, Paris, n'étant pas capable d'affronter ce dossier d'accusation qui s'avère être en béton armé, s'emploie toutefois à éviter de rallonger la chaîne des précédents fâcheux pour sa diplomatie internationale. Pour le moment, le flou persiste dans cette affaire grâce notamment au silence douteux de l'accusé, mais l'occasion de féliciter donc l'Élysée pour avoir pu retenir le fougueux président de se l'ouvrir au risque de tout foutre en l'air. Mais l'envoi de Macky Sall pour calmer les ardeurs de Bamako a lamentablement échoué. Malgré le suspense et le jeu de la montre fait par certains acteurs dans cette affaire, le Mali n'entend pas du tout lâcher l'affaire. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop s'est entretenu la semaine passée avec l'ambassadeur de la Chine au Mali sur cette question. L'affaire retient toute l'attention de l'opinion nationale malienne et panafricaine. Et pendant ce temps, Paris évite les sorties publiques et met à profit toutes ses ressources diplomatiques de haut niveau. Pour le moment, les pays donc, de l'Europe lui auraient assuré leur soutien. Et c'est peut-être pour témoigner de ce fait que la ministre allemande des Affaires étrangères s'est faite de nouveau remarquer par une autre de ses bêtises, qu'elle seule maîtrise le ton. L'Allemagne ne va pas laisser le Mali à la Russie. Par l'Allemagne, il faut entendre l'Union européenne en soutien donc à la France pour l'aider à préserver sa propriété privée qui est le Mali. Le réveil euro-occidental sera plutôt brutal. Dans le Sahel, une religieuse américaine de 83 ans, enlevée en avril par des terroristes dans le nord du Burkina Faso, a été libérée, comme l'a annoncé le diocèse de la ville de Kaya, dans le nord du pays, dans un communiqué ce mercredi. C'est avec grande joie et reconnaissance à Dieu que nous portons à la connaissance de tous que la sœur Suellen Tennyson, la religieuse enlevée à Yalgo dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril, a été libérée par ses ravisseurs, comme l'a indiqué le communiqué signé de l'évêque de Kaya. Il ajoute qu'elle est présentement en lieu sûr et jouit d'une bonne santé, affirmant ne pas avoir d'informations sur les conditions de sa libération, mais exprimant sa profonde gratitude à tous ceux qui y ont travaillé. À Washington, un porte-parole du département d'État a salué la libération d'une citoyenne américaine au Niger, donc, qui avait été retenue en otage en Afrique de l'Ouest, et il n'a pas précisé son identité, mais la sœur Tennyson, donc, était la seule otage américaine dans cette région. Elle retrouvera prochainement donc ses proches dans l'intimité selon sa volonté, a-t-il ajouté. La sœur donc de la congrégation des sœurs marianites de Sainte-Croix était dans le nord du Burkina Faso depuis octobre 2014 lorsqu'elle a été enlevée en pleine nuit. À l'époque, l'évêque de Kaya avait déclaré qu'elle avait été amenée vers une destination inconnue par ses ravisseurs qui, avant de partir, ont vandalisé des salles, saboté le véhicule de la communauté qu'ils ont tenté d'emporter. Mais comment cet otage a été libéré ? Les détails restent assez limités, mais l'armée américaine a révélé également que ce sont les forces d'opération spéciales américaines qui auraient récupéré l'otage. Le président des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley, a révélé l'opération lors d'un discours dans une cérémonie hier, donc pour marquer le transfert du commandement de SOCOM du général de l'armée Richard Clark au général de l'armée Brian Fenton. Au cours de ses remarques, Milley a parcouru une liste des réalisations notables donc des forces d'opération spéciale américaines sous le mandat de Clark. Sous le commandement de Rich, donc les équipes du SOCOM ont secouru un citoyen américain au Nigeria 96 heures seulement après sa capture et plus récemment, au cours des dernières 48 heures, ils ont récupéré un autre otage. L'opération au Nigeria mentionnée par Milley était le sauvetage de Philip Walton, le fils d'un missionnaire chrétien qui avait été capturé au Niger voisin en 2020. Un porte-parole de l'état-major interarmé a déclaré à The War Zone qu'il n'avait rien à ajouter aux remarques de Milley. Est-ce que les autorités du Niger, du Nigeria ou encore du Burkina Faso étaient seulement au courant de ces opérations militaires sur leur sol ? Ce ne serait toutefois pas la première fois donc, que ce genre d'opération s'effectue sans le consentement des autorités donc, des pays concernés. Que ce soit des opérations militaires au Moyen-Orient ou encore en Afrique, les États-Unis mènent des opérations en secret sans qu'aucune instance ne soit au courant. Pour rappel, la présence militaire des États-Unis au Niger n'avait été révélée qu'en octobre 2017 suite à l'embuscade de Tongo Tongo. Rappelez-vous, en octobre 2017, une patrouille américano-nigérienne avait été attaquée et 4 soldats des forces spéciales américaines avaient été tués par les terroristes et c'est principalement Daesh qui avait à l'époque revendiqué cette attaque. Et cette embuscade avait d'ailleurs permis par la suite d'officialiser la présence américaine sur le sol nigérian et donc de déployer des bases militaires au Niger. Mais cette fois-ci, on parle d'une opération militaire effectuée au Burkina Faso. Encore une fois, est-ce que les autorités burkinabées étaient au courant ? Et suite à cette opération, Washington compte également officialiser une présence militaire au Burkina Faso ? Washington, tout comme ses alliés, n'a visiblement pas encore compris le principe de souveraineté nationale. Mener des opérations militaires en secret sur le sol d'un pays étranger est tout de même considéré comme étant une violation grave de la souveraineté nationale. Beaucoup de pays à travers le monde ont déjà porté plainte pour dénoncer ces pratiques, mais pourtant, aucune sanction n'a encore jamais été prononcée contre les États-Unis. Il faut qu'une nouvelle instance se mette en place, comprenant les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient pour que des sanctions soient réellement prises d'une manière concrète et que ces pratiques s'arrêtent une bonne fois pour toutes.
Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a mis en service des unités ferroviaires composées de 2 DMU, trains alimentés par des moteurs diesel, et 150 wagons acquis au profit de CFM, l'autorité nationale en charge des ports et du transport ferroviaire. Les DMU sont destinés au transport urbain de passagers dans Maputo, la capitale, alors que les wagons serviront à l'acheminement de marchandises et de minerais à travers le pays et aussi pour des convois depuis ou vers les États voisins enclavés tels que le Malawi, le Zimbabwe et la Zambie. L'investissement dans les véhicules ferroviaires aidera à répondre aux besoins en matière de transport de personnes et de marchandises, renforçant ainsi la capacité existante dans le cadre des objectifs énoncés pour le plan quinquennal du gouvernement sur la période 2020-2024, a déclaré le président mozambicain. Le Nigeria investira davantage dans l'e-commerce pour un revenu annuel de 75 milliards de dollars d'ici 2025. Le ministère nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement souhaite que le secteur du commerce électronique génère un revenu de 75 milliards de dollars par an d'ici 2025, bien mieux que les 13 milliards actuels. Lors de la rencontre des acteurs du secteur de l'e-commerce tenue à Abuja le week-end dernier, Souleymane Oudou, le directeur du département des matières premières et des exportations, représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, a indiqué que le ministère a prévu des investissements adéquats pour atteindre cet objectif. Selon Souleymane Oudou, le gouvernement fédéral s'est engagé à développer une stratégie de commerce électronique conforme au plan de relance post-COVID-19 afin d'encourager les investissements dans la chaîne de valeur du commerce électronique. Le ministre sénégalais de l'économie numérique annonce la création de 105 000 emplois dans le secteur d'ici 2025. Depuis 2016, le gouvernement sénégalais a entamé la transformation digitale du pays qui repose sur une stratégie numérique. Conçue sur plusieurs axes, elle a été élaborée pour servir de catalyseur à la modernisation de l'économie et à l'amélioration de la compétitivité. Le Sénégal compte créer 105 000 emplois d'ici 2025. C'est une déclaration du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankuba Diatara, le mardi 30 août, lors du lancement des activités du 3e forum du numérique et de la 2e édition du Grand Prix du chef de l'État. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement, à travers la stratégie, a prévu un certain nombre d'actions qui soutiendront le numérique et seront source d'emplois. Le gouvernement sud-africain encourage les entreprises à participer à la prochaine exposition internationale d'importation de la Chine. Les entreprises sud-africaines participeront à l'exposition internationale d'importation de la Chine 2022, où elles espèrent obtenir des avantages positifs. Et le gouvernement les aidera en ce sens, a annoncé mardi un responsable du gouvernement sud-africain. Ces remarques ont été faites par Lerato Matobog, directeur général adjoint de la promotion des exportations, du développement et des investissements extérieurs au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, alors qu'il répondait à une question de Xinhua lors d'un webinaire sur l'impact des salons commerciaux à l'étranger sur les petites, moyennes et micro-entreprises en Afrique du Sud.